Et oui, nous continuons notre série sur le livre de la Genèse qu'on a entrepris depuis quelques mois. La Genèse ou le commencement, c'est le titre, c'est le nom en hébreu Bereshit qui veut dire commencement ou qui veut dire Genèse. Donc on retourne un petit peu au commencement et nous en sommes arrivés à ce récit absolument fantastique avec un suspense quasi insoutenable. Et j'aurais aimé vous poser une question. Voilà une peinture de Rembrandt, un peintre hollandais protestant, et qui représente ce sacrifice d'Isaac, ce sacrifice manqué, raté d'Isaac. Et justement, je me demandais quel titre vous auriez mis à ce récit. Vous l'avez bien écouté, parce que ce n'est pas évident, hein, c'est un récit un peu complexe. Alors, je vais vous donner 5 secondes pour réfléchir à un récit, à un titre. 1, 2, 3, 4, 5. Mais je vous propose quelques titres. L'histoire d'un sacrifice manqué. C'est pas mal, ça. Une foi mise à rude épreuve. L'histoire d'un pauvre bélier qui passait par là. Que faire avec le fils de la promesse ? Quand Abraham apprend le dépouillement. La foi à l'épreuve du sacrifice. Pas facile, hein ? Et on ne va pas passer au vote, mais si nous le faisions, je pense qu'il serait assez partagé par rapport à ces titres, parce que cette histoire est complexe, en tout cas elle fait réagir, et elle pose question, question avec un S à question. Dieu est en question dans cette histoire. Il est aussi question de l'épreuve, du test, et puis il est question aussi du sacrifice. Et la première question qu'elle pose, ou que cette histoire pose, oui, concerne Dieu. Comment Dieu a-t-il pu demander ça à Abraham, de sacrifier son fils ? Alors qu'il lui a fait toutes ses promesses, en particulier la promesse d'une descendance, et que ce fils Isaac est la promesse de Dieu personnifiée. Le fruit de la promesse, comment Dieu peut-il demander à Abraham d'offrir en holocauste ce fils qu'il a si longtemps attendu, Abraham et Sarah ? Et vous connaissez l'histoire que Abraham et Sarah ont même essayé, enfin Sarah surtout, a essayé d'accélérer le processus de la promesse en amenant Agar, la servante, à Abraham. Et il y a eu la naissance d'Ismaël, mais le fils de la promesse n'est pas Ismaël, c'est Isaac, qui arrive sur le tard, vraiment le tard. Abraham a une centaine d'années, comme Billy Graham, à sa mort. Et Sarah est une gamine de 90 ans. Et Dieu demande le sacrifice de cet enfant qu'ils ont attendu si longtemps et dans lequel se trouve la promesse de Dieu. Alors, est-ce que c'est du sadisme ? Est-ce que c'est de l'incohérence ? De la sénilité de la part de Dieu. Dieu ne sait plus ce qu'il fait. Il demande des choses incroyables. Ou l'auteur de ce texte, de ce récit, a oublié que Dieu était avant tout un Dieu de l'alliance avec les vivants, qu'il est le Dieu de l'amour. Ça me fait penser aussi au livre de Job. Il y a quelqu'un à Alpha cette semaine qui nous a dit que ses deux livres préférés, des livres bibliques préférés, c'était l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout, très philosophique, et Job. Mais Job, le livre de Job, pose des questions aussi. Comment Dieu a-t-il pu jouer avec Job, lui enlever tout ce qu'il avait, jouer avec le bonheur de Job, parce que Job a tout perdu, ses troupeaux, ses enfants, etc. On aurait envie de questionner Dieu sur sa justice, sur sa cohérence, sur son amour, peut-être, avec un Dieu comme ça qui demande le sacrifice de son enfant. On n'a pas véritablement envie de devenir croyant, chrétien, disciple. Alors évidemment, si on sort ce récit de son histoire, alors effectivement, il est effrayant. Mais il faut prendre conscience aussi que ce passage s'inscrit dans le fil d'une histoire déjà longue entre Abraham et Dieu. Elle a commencé quelques dizaines d'années plus tôt, quand Dieu l'appelle à sortir de son pays et de sa tente et de sa famille, de quitter son père pour aller vers le pays promis. Et cette histoire n'est pas seulement une succession de faits et d'actions. Non, dans cette histoire, Dieu est à l'œuvre dans la vie d'Abraham. Dieu est en train d'éduquer notre ami Abraham dans la façon qu'il a de vivre sa relation avec Dieu et avec les autres, dans la façon qu'il a juste d'être Abraham. Dieu éduque Abraham pour que son projet de bénédiction pour le monde trouve effectivement une réalisation dans cet homme. Et le parallèle peut être fait pour nous aussi. Dieu nous éduque également pour que nous puissions réaliser en nous la promesse qu'il a pour nous, pleinement la réaliser. Et en fait, cette scène un petit peu effrayante d'un sacrifice d'enfant vient ponctuer une longue histoire par une dernière intervention de Dieu dans la vie d'Abraham. Elle constitue en quelque sorte, et là je prends l'expression d'un auteur, le sommet de leur histoire commune à Dieu et à Abraham. La fine pointe de l'éducation d'Abraham. Vous voyez, on oublie souvent, quand on parle de Dieu, que Dieu est amour, oui, mais qu'il est pédagogue dans son amour, qu'il est formateur dans sa fidélité. Et quand on parle de formation ou de pédagogie, les 80% de professeurs qu'il y a ici le savent, il y a toujours des tests ou des épreuves. Et selon la tradition juive, la Midrash qui commente ce récit de Genèse 22, l'histoire d'Abraham est en fait une série de 10 tests pour travailler la personne d'Abraham. Il y a un travail sur l'homme. Il y a un travail sur Abraham dans sa relation avec Dieu. Et on l'a vu, Abraham n'est pas parfait. Il a des grands moments de faiblesse quand il fait passer Sarah pour sa sœur et pour l'offrir au Pharaon. Mais Dieu est en train de le transformer, de le former. Et vu sous cet angle-là, il me semble que Dieu n'est pas remis en question ici. Son amour n'est pas remis en cause. Au contraire, ce Dieu de l'Alliance, il aime ce sémite mal dégrossi. Et il veut amener cet homme vers la foi et la confiance, tout comme nous. Et d'ailleurs, ce qui nous dérange dans le texte, ce n'est pas simplement que Dieu semble demander quelque chose de tout à fait insensé à Abraham. Ce qui nous dérange, c'est de penser que Dieu risquerait de nous demander le même genre de choses. Ce qui nous fait peur dans ce récit d'un sacrifice du Fils unique, c'est la transposition à notre vie actuelle. In fine, c'est ça qui est vraiment dérangeant. Dieu pourrait-il me demander le même genre de choses ? Bigre ! Voilà une question qui est dérangeante. Et la réponse à cette question est oui. Je suis persuadé que Dieu peut nous demander le même genre de choses pour nous former, pour nous faire grandir en lui, pour nous faire sortir de notre zone de confort, pour nous mettre un peu en danger, pour nous remettre complètement à lui. Oui, Dieu peut faire le même genre de choses avec nous dans sa pédagogie de l'amour et dans sa fidélité dans l'éducation. Mais on va plus loin et on va essayer de comprendre de quel épreuve, de quel test il s'agit, qu'est-ce qui est en jeu, la question de l'épreuve. Et le texte, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, commence au premier verset du chapitre 22. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Alors on a traduit épreuve, mais il paraît que le mot hébreu pour épreuve, donc dans le texte original, dans la langue originale, n'a pas cette connotation de pénibilité qu'a le mot épreuve pour nous, d'épreuve. C'est pour ça qu'on pourrait parler de test qui sert à révéler ce qui ne se voit pas, comme le test de grossesse, ou qui sert à vérifier ce dont on n'est pas sûr. Ça, c'est le test. Et le test fait partie de la pédagogie de Dieu. Mais l'épreuve ou le test de quoi ? Alors, c'est le mot foi qui nous vient à l'esprit en premier, comme dans les titres proposés au départ. Dieu teste la foi d'Abraham. Dieu met la foi d'Abraham à l'épreuve. Une foi qui devrait rendre la personne capable de faire quelque chose qui irait même au-delà de la morale. Une foi quasi aveugle, qui va au-delà même de l'éthique. Et c'est ce qui a frappé, et je vous parle d'un philosophe, parce qu'il a beaucoup parlé de ça, de Søren Kierkegaard, un philosophe chrétien, existentialiste chrétien. Pour ceux qui ont le bac à la fin de l'année, ils pourront citer Søren Kierkegaard, ça fait toujours bien. Mais dans son ouvrage « Crainte et tremblement », il parle d'Abraham, justement, dans ce récit de Genèse 22, comme un chevalier de la foi, qui est prêt à faire le saut dans l'absurde, je cite, et qui va plus loin que les deux stades, les deux catégories de Kierkegaard, c'est l'esthétique et l'éthique. L'éthique, l'homme éthique, c'est celui qui fait les choses comme il faut. Et l'esthétique, c'est celui qui jouit des plaisirs. Mais là, la foi d'Abraham va au-delà de toutes ces catégories. C'est un saut dans l'absurde, c'est un saut dans la foi, c'est un saut dans le religieux. Et Kierkegaard prend l'exemple d'un homme amoureux d'une femme, d'un amour, mais qui vit un amour impossible, car la femme est d'un... Il y a trop d'écart social entre lui et la femme. On est au 19e siècle. Et voilà ce qu'il dit. Il sait que c'est impossible, mais croit que l'impossible peut devenir possible par ce fameux saut dans l'absurde qui constitue la foi. « Je crois, ouvrez les guillemets, néanmoins que j'aurai celle que j'aime en vertu de l'absurde, en vertu de ma foi que tout est possible à Dieu. » C'est beau, hein ? Bah, c'est du Kierkegaard. C'est comme ça qu'on prononce en danois. Bon, bref. Et on peut voir ça sous cet angle, et il parle de vertige de la foi. C'est vertigineux, ça. Waouh ! Mais on peut regarder aussi cette épreuve d'Abraham sous un autre angle. Pas du tout un angle opposé, mais tout à fait complémentaire, qui vient donner un éclairage supplémentaire sur la foi, justement, et son contenu. Et j'ai lu cette semaine dans un coin d'une librairie biblique à Paris, j'ai noté 8 pages de ce livre sur mon petit carnet dans la librairie, sans jamais acheter le livre, qui coûtait 32 € quand même, j'ai fait une économie. Mais bon, j'ai lu une autre approche qui semblait tellement évidente et qui nous dit que le test d'Abraham, l'épreuve d'Abraham, elle porte sur quelque chose de très précis, sur le don. Quel don ? Eh bien, sur le don d'Isaac. En la personne de ce fils arrivé tard, Abraham a reçu un cadeau extraordinaire, une bénédiction fantastique. Et la question, c'est, que va-t-il en faire ? Que fait-on du cadeau ? Le test porte sur le don, et c'est très bien vu de la part de Dieu. Évidemment. Parce que le don ou le cadeau que l'on fait, ou que l'on reçoit surtout, met en place un dispositif permettant que se révèle une vérité cachée chez celui qui le reçoit, ce cadeau. Je le dis autrement. La façon de recevoir un don manifeste quelque chose de celui qui reçoit. Et celui qui reçoit le cadeau peut le faire de deux manières, avec des variantes peut-être, mais deux manières. Soit il voit le cadeau comme un objet à prendre et à posséder, soit il voit le cadeau comme un signe qui invite à nouer et à cultiver une relation avec celui qui offre. C'est vrai ça, hein ? Et on le voit bien à Noël, quand on fait des cadeaux. Et on en a parlé en décembre, ici même, en parlant du cadeau parfait. Aujourd'hui, on est tellement dans le cadeau en tant qu'objet de consommation qu'il y a des sites pour vendre les cadeaux de Noël qui ne vous ont pas plu et dont vous voulez vous débarrasser et gagner un peu d'argent en même temps. On revend le cadeau qui a déplu sur Internet, au Tempora, au Mores. Et avec le cadeau, effectivement, on peut soit privilégier la chose offerte, se focaliser sur le don, sur le cadeau, ou au contraire, privilégier la relation que le cadeau cherche à entretenir ou à créer. Et nous sommes au cœur du test d'Abraham dans la relation qu'il a nouée avec alliance avec Dieu. Si Isaac est un don de Dieu, comment va-t-il recevoir ce cadeau ? Ou que va-t-il faire avec ce cadeau ? Va-t-il se l'accaparer jalousement, le tenir jalousement comme un objet qui lui appartient en propre ? Va-t-il vouloir le garder pour lui, le contrôler, ou contrôler son avenir dans une dynamique que l'on pourrait appeler de convoitise ou de contrôle ? Ou dans la dynamique d'une alliance librement acceptée, il va le considérer comme un véritable don, c'est-à-dire comme un signe échangé entre Dieu et lui dans cette relation d'alliance et de confiance et d'amour. Et c'est là le véritable test d'Abraham que l'on peut considérer comme le test de la foi. Que fais-tu de mon don ? Et quand on y réfléchit bien, c'est un petit peu la même chose, le même test qui se passe avec Job. L'épreuve porte sur ce que Job a reçu, et il a reçu beaucoup. Famille nombreuse, bonheur, réussite sociale, troupeau, de chèvres, on fait toute la description. Et le diable, qu'on appelle l'accusateur dans le texte, le fait remarquer. Est-ce que la foi de Job est tout à fait désintéressée ? Est-ce que la foi de Job ne dépend pas, dit l'accusateur, ne dépend pas de tout ce qu'il a reçu comme cadeau ? Est-ce vraiment pour rien que Job craint Dieu ? Et l'histoire de Job nous montre qu'il passe le test. Puisque, alors que tout lui est retiré, ses troupeaux, ses enfants, son succès, sa réussite sociale, il va dire cette phrase incroyablement forte et peut-être tout à fait décalée pour un lecteur du 21e siècle que nous sommes, mais que nous pouvons quand même recevoir. Il va dire cette phrase que l'on connaît. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, Job a passé le test de comment je reçois le cadeau. Et bien Abraham, que va-t-il faire ? Alors, le récit, je l'ai dit tout à l'heure, laisse planer le suspense. Hein. On marche pendant 3 jours pour faire 80 kilomètres. C'est pas mal. Mais on imagine qu'à chaque pas, Abraham réfléchit sur tous les événements de sa vie. Elle est pas mal la photo, hein, avec c'est pas un bélier, le petit agneau derrière. Mais on imagine qu'il est en train de se poser toutes les questions, qu'il réfléchit à tous les événements de sa vie, sur ce que Dieu est en train de lui demander, et il médite le pourquoi du comment, et il se remémore aussi toutes les fois où Dieu a renouvelé son alliance d'amour avec lui. Et puis, il y a ce moment où il renvoie les serviteurs, il reste seul avec Isaac et il dit aux serviteurs, « Nous reviendrons vers vous, tous les deux. » Comme si Abraham croit en un heureux destin. Et puis, Isaac se demande où est l'agneau pour le sacrifice. Lui demande où est l'agneau pour le sacrifice. Et là, on imagine le déchirement d'Abraham devant cette innocence d'Isaac. Oui, Abraham, pendant 3 jours et demi, a le temps de réfléchir, peut-être même de souffrir. Il a le temps de méditer sur l'alliance avec ce Dieu en qui on peut faire confiance. Il a le temps de prendre le temps de faire la part des choses et peut-être de lâcher prise. Et il va jusqu'au bout, Abraham, il va prendre l'impossible décision. Et on remarque que c'est intéressant. Au début, les actions sont longues, marcher pendant 3 jours, mais sont décrites très brièvement. À la fin du récit, les actions sont très courtes, mais sont décrites très longuement. Comme si le rythme se ralentissait. Il prépare le bûcher, il ligote son fils Isaac dessus. Il prend son couteau, il lève le couteau. Le rythme ralentit. Autant suspend ton vol. Comme s'il espérait encore que Dieu intervienne, que ce Dieu qui ne l'a jamais lâché jusqu'à présent intervienne. Et Dieu intervient, et Dieu ne lâche pas. Un bélier qui passait par là fera office de sacrifice, et Isaac ne sera pas sacrifié. Ouf ! Le suspense retombe en même temps que le couteau pour l'Holocauste. Mais ce qui est relevé par le messager de Dieu, un autre mot pour parler de l'ange, c'est qu'Abraham, et c'est bien dit, Abraham passe le test, et que Abraham n'a pas refusé, en gras et en italique, les deux dernières phrases, « Car maintenant je sais que tu crains Dieu puisque tu ne m'as pas refusé ou épargné ton fils unique. » Et dans l'original, c'est le mot épargner. dans le sens économique ou même bancaire du terme, épargner, garder pour soi, retenir à soi en vue d'assurer son propre avenir, épargner, un compte d'épargne. On retient pour soi en vue d'assurer son propre avenir. Mais non, Abraham n'a pas gardé pour lui, n'a pas épargné son propre fils. Il n'a pas gardé pour lui le don de Dieu. Au contraire, il lui offre. Il est prêt à lui offrir le même cadeau qu'il a reçu à la naissance d'Isaac. Il le lui offre. Et il montre par là que sa relation avec Dieu est plus forte en lui que le désir de retenir Isaac et de le garder pour lui. Et c'est là toute la notion du sacrifice qui n'est pas un échange de bons procédés, comme Yvonne l'a dit tout à l'heure, là, le problème au fil du temps, mais un signe fort de la relation donnée, de la priorité donnée à la relation. Et la suite est magnifique. Non seulement la menace qui pesait sur l'avenir d'Isaac et sur la promesse s'efface, mais ce moment de test grandeur nature laisse place à une rencontre avec Dieu. Et Abraham découvre Dieu. Il est Adonai Jireh, celui qui pourvoit. Dans son amour, dans la fidélité à son alliance avec l'homme, avec toi aussi, l'Éternel pourvoit et il pourvoit à tout. Il est comme cette main tendue de ce messager-là, la main tendue de Dieu à l'homme. Ce qui nous amène au troisième point, à la troisième question, celle du sacrifice. Et à la question peut-être aussi de l'application pour nous et de la transposition pour nous, aujourd'hui, maintenant, présentement. Que faire avec ça ? Alors, on ne peut pas ne pas parler de cette histoire sans penser à ce Dieu qui pourvoit au sacrifice ultime de Jésus, de Christ, sur la croix. Et avec des petits mots dans Genèse 22, 13 qui nous amènent vers le Nouveau Testament, vers Jésus, le bélier à la place de son fils, dans Genèse 22, dans le récit d'Abraham et d'Isaac. Alors que Jésus va venir sur la croix à notre place. La question de « n'a pas parce que tu n'as pas Abraham, tu n'as pas épargné ton fils unique, lui qui n'a même pas épargné, ça c'est dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, Dieu qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui, la plénitude de Christ ?» Mais Dieu n'a pas épargné son propre fils, son unique, par amour pour nous. C'est le message de l'Évangile. On pourra peut-être y réfléchir, certainement y réfléchir pendant la Sainte Cène. Mais il y a une autre question qui est celle de la place du sacrifice pour nous dans la vie. J'ai dit tout à l'heure, et j'ai senti un petit boom, que oui, Dieu est capable de nous demander le même genre de choses que ce qu'il a demandé à Abraham. Dans le même sens que le test d'Abraham. Et on peut se poser la question, justement, que faisons-nous du don de Dieu ? Quelle est la place du sacrifice dans notre vie ? Non pas comme une monnaie d'échange, mais comme un signe d'une vraie relation avec Dieu. Sommes-nous prêts à lâcher prise, à ne pas épargner, à ne pas garder pour soi ? Voilà la question que ce récit nous pose. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de sacrifice aujourd'hui ? Eh bien, je pensais à une parole de Jésus que l'on retrouve dans les quatre évangiles et dans celui de Jean en particulier. C'est cette parole qui nous dit que celui qui veut s'attacher à sa propre vie, non, la perdra. Ou dans d'autres évangiles, c'est celui qui veut garder sa vie. Le même terme que dans Genèse 22. 1200, 1300 ans après. Celui qui veut garder pour lui sa propre vie va la perdre, mais celui qui est prêt à la donner va au contraire la conserver jusque là, dans la vie éternelle. Et on retrouve les mêmes termes que dans le sacrifice d'Isaac et le verbe garder, garder pour soi, épargner. Celui qui veut épargner sa propre vie, c'est-à-dire se faire un petit pactole pour se garantir un avenir. Je parle au figuré, et peut-être au propre aussi pour le pactole. Celui... On va dire, je paraphrase ce verset de Jésus, « Celui qui s'accroche au cadeau de la vie qu'il a reçu de Dieu va finir par la perdre, car il prend ce cadeau pour un objet à garder pour lui, rien que pour lui, sans rien donner en retour. Par contre, celui qui est prêt à la donner, à l'offrir en retour à Dieu, à lâcher prise et à l'offrir en sacrifice comme un signe d'une relation nouvelle avec Dieu, celui-là va conserver cette vie même jusque dans la vie éternelle. Celui qui privilégie la relation avec Dieu plutôt que le cadeau de la vie elle-même va la conserver, la vie, la vraie, la vie aux champs éternels. La vie éternelle d'une relation avec Dieu qui change tout dans la vie. Et je ne sais pas si vous seriez d'accord, si je vous rencontre là, mais moi je trouve que c'est une super application de cette histoire un peu crazy du sacrifice d'Isaac. Alors je termine en étant peut-être un peu plus concret, mais de quel sacrifice s'agit-il ? Dois-je être prêt à sacrifier ma famille, mon travail ? Non, c'est pas là. Ma réussite professionnelle, mes projets, mes ambitions, parce que j'aime Dieu, je sacrifie. Peut-être. Je sais pas. Mais je me dis que peut-être que notre Dieu, à nous, occidentaux du 21e siècle, est un peu trop tranquille. Peut-être que notre foi est un peu timide. Et que Dieu nous demande de quitter un peu de notre confort quand même, et de notre sécurité. Peut-être que Dieu nous demande des sacrifices qui vont un peu au-delà de ce qui est conventionnel, de ce qui est religieusement correct ou du socialement correct. Être prêt à tout pour Dieu, nom d'un petit bonhomme. Dans mon emploi du temps, dans mon témoignage, dans ma générosité, dans l'utilisation de mon temps, mais aussi de mes dons, de mes ressources. Oui, il y a de la place pour le sacrifice dans la vie chrétienne, mais quand on le voit sous l'angle de que faisons-nous avec le don de Dieu. En tout cas, ce sacrifice sera différent quand même de celui demandé à Abraham, du même genre, mais différent, parce qu'il y a entre les deux alliances, l'ancienne alliance ou l'Ancien Testament, et la nouvelle alliance ou le Nouveau Testament, il y a un événement qui change tout, la venue de Jésus, le sacrifice de Jésus et la résurrection de Jésus. L'un ne va pas sans l'autre. Et parce que Jésus est venu pour sceller de son sang la nouvelle alliance, notre sacrifice sera, et Yvonne l'a dit, un sacrifice de reconnaissance. Un sacrifice consécutif à celui de Christ. Il n'y a plus de sang à verser. Mon sacrifice sera un sacrifice qui est mu par la reconnaissance. Je veux me donner à lui pour dire merci. Pas pour gagner ma place au paradis, c'est déjà gagné en Christ, en Jésus. Mais parce que je veux dire merci. Et puis ce cadeau sera personnel. Il ne s'agit pas de sacrifier son enfant, ou d'exiger même le sacrifice des autres, ou de laisser aux autres le soin de se sacrifier. Hein ? On veut que les professionnels du job, on veut bien qu'ils se sacrifient, mais moi, non, c'est un sacrifice personnel. Sacrifice de ma personne. C'est toi que je veux, dit Jésus. C'est à toi que je demande de me suivre. Et Paul le dira en Romains, et c'est la petite image, Romains 12, 1. Je vous demande, je vous recommande, je vous exhorte, frères, parce que Dieu a été bon envers nous, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et offrir votre corps. Parce que Christ est mort pour nous, il nous appelle à offrir nos corps en sacrifice, nos personnes. Et ce sera de notre part un culte tout à fait raisonnable, un culte logique. Et puis, dernier élément de ce sacrifice, c'est un sacrifice vivant, pas de sacrifice mort. Ce sacrifice sera vivant, et c'est ça qui fait toute la différence. Fini les sacrifices sanglants, Christ a tout accompli par sa mort. Ce que Dieu veut, c'est notre vie, rien que notre vie, toute notre vie. Que le Dieu de la vie nous permette, par sa grâce et pour sa gloire, de la lui rendre, cette vie, de la lui rendre comme un sacrifice vivant, non pas pour gagner quelque chose de plus, mais par reconnaissance et comme un signe fort de notre relation avec lui, relation d'amour avec lui. Êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout avec lui ? Amen.